Bonjour à tous.
Bonsoir.
Bienvenue.
Monsieur et Madame Tenji.
Et bonjour à tous, bienvenue dans Crit My Cult à nouveau, et cette fois-ci pour un épisode spécial. En effet, on a suivi pendant une semaine le festival Sériemania. C'est un festival de séries, comme son nom l'indique, qui se passe à Lille. Et nous, on n'a malheureusement pas pu aller à Lille, mais ils ont un truc très très cool qui fait qu'on a pu suivre les épisodes en ligne. Sur les 40 séries qui étaient diffusées, on a pu en voir une vingtaine, et on va vous parler de celles qui nous ont marquées d'une manière ou d'une autre. Maxime, je te propose qu'on commence.
Bah ouais, et puis bonjour tout le monde.
C'est vrai, je t'ai même pas laissé dire bonjour aux gens. En tout cas, Maxime, on est prêt à démarrer, donc bienvenue dans Crit My Cult. Tout ce festival était découpé en plusieurs compétitions, et donc on va vous parler à chaque fois des séries par compétition, tout simplement. On va commencer par la compétition internationale, et dans cette catégorie, le gagnant a été la série Rematch. Série qu'on n'a malheureusement pas pu voir dans notre série de visionnage, justement. Donc, on va passer tout simplement aux séries qu'on a vues. Et on va commencer par la série Borders, qui est une série anglaise de 6 épisodes de 60 minutes. On a pu voir les deux premiers épisodes, et Maxime, dis-nous un peu de quoi ça parle.
Alors, ça parle tout simplement d'une bande de jeunes de banlieue qui se retrouvent projetés dans une école privée formant le futur de l'élite britannique. Et bien évidemment, avec le choc des cultures, l'adaptation s'annonce assez difficile.
Déjà, on peut dire directement, c'est une série qu'on a vraiment aimée.
Totalement.
Ouais, parce qu'en plus, les Anglais, dans ce genre d'exercice, ils sont plutôt forts, quoi.
Ouais, ils sont giga forts. En fait, les Anglais ont un talent pour faire de la fiction sociale. On pense à Ken Loach au cinéma, ou même à des séries parfois comme Misfits, qui était une série comique, mais qui avait un vrai fond social. Ou des séries comme aussi This is England. Et en fait, ils savent très bien le faire, parce que déjà, ils arrivent à parler de choses sociales assez graves, assez complexes, mais avec de la comédie. Et en fait, ça, ils y arrivent généralement avec des personnages, avec une vraie écriture de personnages forte, qui leur permet d'avoir... Vu que les personnages sont à la fois drôles, mais aussi crédibles, mais en fait, on peut à la fois faire de la comédie, mais aussi aller dans le fond des choses sur ce qu'il y a à dire de la société.
Oui, voilà, ce qui marque vraiment, c'est cette légèreté qui parcourt la série, alors qu'on est là pour nous raconter des problèmes sociaux assez forts, avec lesquels on est encore en plein dedans aujourd'hui. Et puis, ce genre de situation où on a deux univers en contradiction, ça crée tout de suite de l'attrait, en fait. On a tout de suite envie de savoir comment ils vont réussir à s'adapter à cet univers.
Oui, et s'adapter dans les deux sens, parce que finalement, ils apportent quelque chose à tous ces, entre guillemets, gosses de riches. Donc forcément, au début, en plus, c'est un peu les seules personnes de couleur de l'école. Donc en plus, on traite le racisme de manière assez frontale. Mais, comme je dis, il y a toujours cet aspect comédie, et en fait, on va suivre 5 personnages issus des banlieues. Et en fait, ces 5 personnages-là, ils vont s'adapter différemment à ce monde-là. Il y en a un qui va s'adapter parce que il va faire du business dans l'école. Il y en a un autre qui est un peu plus intello, qui va réellement s'adapter et se trouver une bande de copains. Il y en a un autre qui va pas s'adapter, qui va se faire harceler. Et il y en a une autre qui est une fille, qui est en plus militante, donc son militantisme dérange le système dans lequel elle arrive, mais au-delà de ça, elle va se découvrir aussi des points communs avec les autres filles. Et en fait, on ramène un peu tout ça, au bout d'un moment, on se dit, en fait, c'est tous des ados, ils ont ce point commun-là, mais ils ont leurs différences sociales. Et le fait qu'ils arrivent dans cette école-là, pour resituer un peu le contexte, c'est qu'en fait, il y a un des élèves qui a fait quelque chose d'assez grave, je vous dis pas quoi, mais qui a atterri sur les réseaux, et pour redorer le blason de l'école, ils se disent « vas-y, on va accueillir des jeunes de banlieue gratuitement qui n'ont pas normalement accès à cette école ». Donc du coup, leur intégration, c'est pas quelque chose d'altruiste, ça sert des enjeux politiques. Mais encore une fois, tout cet aspect politique, racisme et tout n'est jamais lourd, et on passe un vrai bon moment de comédie. Et en plus, moi qui suis un grand fan de Misfits, j'avoue que c'est assez macabre, et que j'ai été... avec cette série, j'ai été chopé là où c'est normal de me choper. Donc la série, je pense qu'elle va arriver assez vite en France, parce que elle a eu une belle visibilité au festival, et je pense qu'il y a une chaîne qui va la racheter assez rapidement. Il n'y a pas de date de diffusion, mais je suis pas inquiet qu'on va la voir arriver dans l'année. Dès que ça arrive, on vous redira qu'elle sort dans le podcast ou sur TikTok, et on vous conseille vivement Borders.
Nous pouvons passer donc à la série suivante. Du coup, c'est Dans l'ombre, toujours en compétition internationale. C'est une série française de 6 épisodes de 52 minutes, et encore une fois, on a pu en voir deux épisodes. C'est une série qui sera diffusée sur France 2 en septembre. Maxime, de quoi ça parle ?
Alors, dans cette série, on va suivre l'assistant d'un élu des primaires d'un parti de droite pour être candidat à la présidentielle, et en fait, on va voir ce qui se passe dans l'ombre d'une élection présidentielle.
Alors, pour le coup, c'est une série qui cache pas vraiment ce qu'elle a à montrer. Hein, avec ce résumé, vous avez compris l'ambiance de la série. Cependant, c'est une série qui a quand même des petits problèmes d'écriture, notamment parce qu'elle ne se fait pas confiance. C'est-à-dire qu'elle est un peu obligée d'amorcer tout ce qu'elle amène, alors qu'il n'y en a pas besoin, les éléments étaient là et étaient plutôt intéressants, mais elle en rajoute comme si on n'allait pas réussir à la suivre. Donc c'est un peu bizarre et ça crée des petits problèmes d'écriture finalement.
Exactement, parce que c'est une série déjà qui est sauvée par son casting, faut le dire. On a quand même Swan Harlow dans le rôle titre qui est génial, on a Melville Poupeau dans le rôle du candidat à la présidentielle, on a Karine Viard dans le rôle de sa principale concurrente, et Evelyne Brochu, qui est une actrice québécoise que vous avez dû voir par exemple dans Polytechnique de Denis Villeneuve, qui complète un peu ce casting principal. Et les rôles sont très bien écrits, et les acteurs sont très bien dirigés, et en plus sont de très bons acteurs. Donc du coup, en fait, ça nous suffit à être engagés dans la série. On a des personnages qui nous intéressent, on a des personnages attachants. Mais la série, effectivement, elle se permet de rajouter, on va dire, une couche de mystère et de complot, qui, bon, c'est ce qu'elle va raconter, donc j'ai pas de souci avec le fait qu'il y ait ça, puis c'est très courant dans la série politique, c'est normal. Mais le problème, c'est qu'elle se permet d'en rajouter un peu au chausse-pied. Dans le pilote, je pense par exemple, il y a une scène en mode boîte de nuit pour fêter la victoire aux primaires, et Swan Harlow reçoit un appel téléphonique d'un gars qui lui dit « Oui, attention, vous êtes assis sur une bombe, voilà. » Et en vrai, cette scène est pas nécessaire. On est engagé sans ça. Mais comme tu le dis, Benjamin, la série se fait pas confiance et se sent obligée de mettre ça dès son pilote pour être sûr de nous accrocher. Et du coup, ça crée des maladresses d'écriture parce que on dirait en fait qu'elle en fait trop.
Ouais, c'est ça, on sent que c'est un peu forcé par moments, alors que, comme je disais, tous les éléments sont là et il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Mmh. Et pour vous dire à quel point les éléments sont là, c'est vraiment, moi, les séries politiques, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas ma cam. Et pourtant, j'étais quand même très intrigué par ce qui se passait, parce que justement, l'ambiance de la série et le casting, comme l'a dit Maxime, sont vraiment attrayants et donnent envie quand même de voir la suite.
Exactement, donc ça sort en septembre, ça sera sur France 2. Du coup, je doute pas qu'il y aura de la promo pour nous rappeler à tous que ça sort. Et donc voilà, on vous conseille Dans l'ombre.
Pour la dernière série de la compétition internationale dont on a à vous parler, on va passer sur Apple's Never Fall. C'est une série de 7 épisodes de 60 minutes. Nous avons pu voir 2 épisodes et c'est une série qui sort sur Peacock aux États-Unis. Et c'est une série qui a remporté un prix car elle a eu le prix de la meilleure actrice pour Annette Bening. Et donc, Maxime, raconte-nous un peu de quoi parle cette série.
Alors le pitch de base, c'est la mère d'une famille en apparence soudée qui disparaît mystérieusement. Il y a donc une fratrie de 4 enfants, adultes, qui vont mener l'enquête sur cette disparition et qui vont assez vite soupçonner leur père. Et donc leur père effectivement est joué par Sam Neill et la mère est jouée par Annette Bening qui a donc remporté le prix du meilleur rôle féminin. Et si elle a remporté le prix et qu'elle a disparu, c'est qu'en fait il y a des flashbacks qui nous permettent d'explorer son personnage.
Et c'est vrai que c'est quand même un prix étonnant parce qu'on la voit quand même peu, finalement.
Finalement, ouais.
Mais c'est vrai que, Annette Bening est quand même une actrice assez formidable et elle a réussi à irradier l'écran. Du coup, moi, ce qui m'a plu dans cette série, c'est cette notion de mystère, en fait. Il y a un mystère qui est donc cette disparition. Et donc, on vous a parlé du père, mais il y a plein d'autres éléments qui nous permettent de soupçonner d'autres personnes, dont par exemple les personnes de la fratrie et aussi des personnes extérieures. Et moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est que la série m'a pris parce que je ne sais pas encore où elle va. Il y a plein de possibilités, et en fait, c'est aussi le danger de cette série, c'est est-ce que ça va tenir pendant 7 épisodes ? Ça, j'en suis pas sûr, malheureusement, parce que on n'a pas encore assez d'éléments sur ce mystère, mais en tout cas, ça a suffi pour m'intriguer et faire que j'ai beaucoup aimé les 2 épisodes que j'ai vus.
Ben justement, moi, c'est les mêmes arguments, mais pour dire que c'est ça qui m'a pas accroché du tout. C'est-à-dire que je trouve, en fait, le mystère est pas si intéressant parce qu'on a... En fait, il est tout de suite trop flou. Moi, je préfère les mystères, on va dire, en arborescence. C'est-à-dire avec un mystère clair et une question claire dès le début, et après, les questions qui vont arriver au fur et à mesure, en fait. Là, je trouve que c'est trop ouvert, trop bordélique, surtout que j'ai pas trouvé les personnages finalement si intéressants que ça, et vu que c'est une série qui joue le mystère autour de ses personnages, bah du coup, ça m'a pas accroché. Justement, je me suis pas mal ennuyé devant ce pilote, et j'en ai un peu rien à faire de ce qui est arrivé à cette pauvre mère de famille. Donc voilà, moi je suis passé complètement à côté, mais soit dit en passant, ça reste techniquement quali, quoi. Donc, je pense que si vous aimez bien les séries quand même de mystère, ça peut vous plaire. Notons d'ailleurs que ça se passe en Floride, donc on n'est pas dans un thriller froid qui se passe de nuit, dans des banlieues sombres, on est en Floride, il y a du soleil, c'est des gens riches qui jouent
au tennis. Ça joue au tennis.
C'est une ambiance qui est originale pour ce genre de thriller. Mais voilà, j'ai pas accroché, mais écoutez, en vrai, je vous la conseille quand même. Je crois pas qu'elle ait été achetée par une chaîne en France encore, surtout que c'est Peacock, donc c'est Universal. Et Universal a pas de diffuseur attitré, quoi. Elle a pas de plateforme ni rien. On verra, on vous prévient quand ça sortira, et même si on n'est pas d'accord, on vous conseille quand même Apples Never Fall.
Et maintenant, on va passer à la compétition française qui a été remportée par la série Machine. Et nous, on a une autre série dont on voudrait vous parler, qui s'appelle Homejacking. Il y a 6 épisodes de 35 minutes, et nous, on a pu voir 3 épisodes. Maxime, qu'est-ce que ça raconte ?
Alors, Homejacking commence lors d'une prise d'otage d'un couple dans leur maison. Ils vont tuer accidentellement leur agresseur, mais ils décident de ne pas appeler la police, qu'ont-ils à cacher ?
Très mystérieux tout ça.
Voilà, en plus je vous ai vraiment fait le pitch de base, quoi, parce que c'est une série qui a beaucoup de ramifications,
oui.
Et qu'un système de narration, on va dire, à tiroir, c'est-à-dire qu'on va d'abord découvrir une partie de l'intrigue, puis une autre, parce qu'en plus c'est une intrigue qui s'étend sur beaucoup d'années, finalement, et le cœur de la série, ça va vraiment être la maison.
Oui, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est la maison, et surtout l'événement, en fait. Du coup, cette agression, on va la voir plusieurs fois sur différents points de vue, ce qui va nous permettre, en fait, d'à chaque fois qu'on la voit, en apprendre d'autant plus. Et du coup, la scène est à chaque fois plus impactante alors qu'on voit quasiment la même scène. Mais comme on a des infos en plus sur qui est qui fait quoi, bah ça nous met en fait une sorte de pression supplémentaire qui fonctionne vraiment bien pour du format série, en fait.
Exactement, et moi je pense par exemple à une scène où au bout d'un moment les flics vont chercher quelqu'un dans les bois. Et en fait, nous, vu qu'on a déjà vu la scène d'un certain point de vue, on sait qu'ils vont pas trouver la personne. Mais on suit, on re-suit cette scène en fait du point de vue de quelqu'un qui se cache. On est quand même en stress du fait que cette personne va se faire trouver ou pas. Alors que finalement, on sait qu'elle va pas se faire trouver. Parce que comme tu dis, vu qu'on a des éléments en plus et des enjeux en plus à chaque fois qu'on revoit la scène, en fait, on est quand même happé par la nouvelle dimension que ça prend. Et en plus, là, pour le coup, vu que c'est une histoire à tiroir, il y a plusieurs mystères. Et le mystère est assez épais, assez engageant. Ce qui est d'autant plus surprenant que la série arrive à autant nous engager et à nous mettre à fond dedans. Il y avait 3 épisodes avec Benjamin, on les a bouffés, on était vraiment en chien à la fin du 3e. Et je vous dis que c'est marrant parce qu'en fait, la série, elle a pas mal de défauts. Et je trouve que c'est l'avantage de l'art de la série télé. C'est sa capacité à faire fi de certains défauts parce qu'elle arrive à être intéressante, elle arrive à être engageante, elle arrive à te choper dans son mystère. Les défauts, du coup, quels sont-ils ? C'est qu'elle a des personnages quand même qui sont assez poussifs et même parfois pas trop crédibles. Et c'est vrai que la série est tout le temps too much, en fait. Mais c'est pas un too much, on va dire, de série B assumée. C'est vraiment des scénaristes avec leurs gros sabots qui arrivent et qui te posent le truc. Mais malgré tout, ça arrive à être engageant, on arrive à être à fond dedans, on a envie d'en découvrir plus. Donc en fait, c'est une série qui arrive à utiliser ses faiblesses pour en faire quelque chose finalement de très qualitatif.
Malgré tous ses défauts, c'est vraiment cette structure narrative qui parvient à nous choper parce que c'est elle qui arrive à imposer le mystère et à nous dévoiler à chaque fois assez de choses pour avoir envie de revenir vraiment à l'épisode suivant.
Exactement, donc la série du coup, elle sera diffusée sur OCS. Elle arrive très très vite, parce qu'on va la voir en entier dès le 7 avril. Et là, on vous la conseille vivement. En plus, 6 épisodes de 35 minutes, c'est vraiment le genre de série qui se binge-watch au calme un dimanche dans le canapé. Donc je pense qu'on va très vite au bout et qu'elle sera très agréable à regarder. Donc vous l'avez compris, on vous conseille aussi Homejacking.
On continue notre parcours dans ce festival Sérimania avec maintenant le Panorama International. Catégorie qui a été gagnée par Dates in Real Life ou Dates IRL. Et c'est une série qu'on a vue, donc on va pouvoir vous en parler. C'est une série de 7 épisodes de 25 minutes. C'est une série norvégienne. Et nous, on a pu en voir 3. Maxime, raconte-nous un peu tout ça.
Quand son petit ami virtuel la quitte, Ida se met à découvrir le vrai monde au travers de Dates dans le but de rendre son ex jaloux. Et en fait, dans cette aventure, c'est sa féminité qu'elle va pouvoir découvrir.
Exactement. Et ce que j'aime dans cette série, c'est que ça va beaucoup plus loin parce que c'est une série ultra moderne. On peut penser à un pitch plutôt classique, voilà, perte du petit copain, on a envie de se venger, etc. etc.
Voilà, la no life qui découvre le vrai monde.
Exactement. Mais en fait, ce qui fait la force de la série, c'est la modernité avec laquelle elle traite son personnage et l'environnement qui l'entoure. Et je sais pas du coup où ils ont été chercher cette modernité, parce qu'on la voit rarement. Peut-être parce que c'est une série norvégienne, donc c'est des trucs qu'on voit un peu moins généralement. Donc peut-être qu'ils ont une avance là-dessus, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est une série que j'ai vraiment appréciée, quoi.
Ouais, totalement, parce que, comme tu dis déjà, je suis d'accord avec toi sur la modernité, c'est-à-dire que la série va traiter une histoire qu'on a déjà vue 1000 fois, mais va la traiter de manière moderne. Et là, on va un peu vous spoiler pour vraiment vous donner envie de voir la série, c'est que toute la force de ça, on la trouve dans l'épisode 3. En fait, dans l'épisode 3, Ida, donc, va avoir son idole musicale, et aussi son fantasme, hein, qui va venir jouer un concert dans sa ville. Elle est une grande fan de lui, elle a d'ailleurs écrit une fanfiction érotique sur lui quand elle était plus jeune, et du coup elle va le voir, mais elle va voir le concert et en plus elle espère pouvoir le date tout simplement. Et elle va le date. Et en fait là où dans beaucoup de séries, soit la chose va tout simplement pas marcher, parce que trop irréel, ou alors l'artiste en question va se révéler être un connard, ou en tout cas il y a quelque chose qui va faire capoter, là, tout se passe bien. Et tout se passe bien de manière crédible. C'est-à-dire que les deux vivent à travers des avatars, donc lui à travers son avatar de scène, et elle à travers ses avatars du monde virtuel, et tous les deux vont se rencontrer et, on va dire, se découvrir ce qu'ils sont eux-mêmes. Autant lui qui va découvrir l'homme qu'il est, que elle qui est dans son parcours de la femme qu'elle est. Et du coup, l'épisode va se concentrer autour de leur nuit dans l'hôtel, des discussions qu'ils peuvent avoir et des rapports aussi qu'ils peuvent avoir. Mais on va développer vraiment toute une histoire dans cet épisode-là qui vont vraiment nous permettre d'aller au cœur des personnages et au cœur de ce que fait la série. Et c'est en ça que la série est moderne. C'est pas spécialement dans son scénario, mais c'est dans la manière dont elle va le raconter les choses et la manière dont elle va aller au plus profond des choses.
Et tout ça, en fait, dans des épisodes de 30 minutes. Donc ça, c'est assez impressionnant de voir le personnage évoluer aussi vite, mais de manière très précise et très bien écrite. On pourrait se dire, par exemple, que c'est rusher, mais au contraire, en fait, on a ce plaisir de voir, comme un personnage de jeu vidéo, l'évolution de niveau en niveau. D'ailleurs, elle a toujours son sabre sur elle, qui est un sabre imaginaire, entre guillemets, ça vient de son jeu vidéo, mais on la voit, elle, dans la vraie vie avec, pour montrer à quel point son personnage de jeu vidéo l'aide aussi à se découvrir en tant que femme et aller plus loin dans sa découverte du monde.
Effectivement, l'aspect jeu vidéo, il est assez présent parce que quand elle commence à faire des dates et qu'elle commence à rencontrer ses premiers mecs, on est vraiment au niveau 1 du mec, quoi, et on est vraiment au niveau 1 du date. Et là, en plus, on s'est arrêté au troisième épisode. On est déjà à un niveau très avancé, donc là, carrément, elle est une star, elle est qui se passe bien. Donc, il y a vraiment cette évolution de niveau où elle va affronter, finalement, des expériences de plus en plus difficiles, mais qu'elle va quand même réussir à surpasser. Et effectivement, ouais, la vitesse à laquelle elle évolue est incroyable, au point que, vraiment, quand j'ai terminé l'épisode 3, je ne reconnaissais plus le personnage que j'avais découvert au tout premier épisode, au tout début, quoi. Donc voilà, vous l'avez compris, Dates IRL, on vous la conseille fortement, mais c'est une série norvégienne. L'avenir, hélas, de beaucoup de séries européennes et d'Europe de l'Est ou scandinaves est toujours assez incertaine en termes de diffusion française. Donc on ne sait pas où elle sera diffusée en France, quand elle sera diffusée, si elle aura une adaptation française en doublage ou en sous-titres. Mais voilà, pareil, on vous tient informé de son arrivée. J'espère en tout cas que les chaînes françaises ont flashé autant que nous sur la série
Et... Déjà, il y a le prix. Donc, en vrai, ça peut peut-être l'aider à trouver un diffuseur.
Ouais, complètement. J'espère en tout cas qu'elle va pas être adaptée, parce qu'on en reparlera pour d'autres séries, mais l'avenir de pas mal de séries européennes, finalement, c'est d'être achetées, d'être réadaptées dans le pays. Je pense pas que ce sera le cas. J'espère simplement qu'on aura une belle version bien sous-titrée comme on l'a eu avec les épisodes qui nous manquent, ou même avec un doublage VF pour pouvoir étendre son accessibilité au public. Donc on s'y est informé, mais encore une fois, on vous conseille Dates in Real Life.
Et toujours dans le panorama international, on passe maintenant à la série True Love. Il y a 6 épisodes de 45 minutes, et nous, on a pu en voir 2. Maxime, tu peux nous dire de quoi parle True Love ?
Au décès d'un membre d'une bande de potes d'octogénaires, ils se font la promesse de ne pas se laisser souffrir aux portes de la mort, et la série pose cette fameuse question: jusqu'où iriez-vous par amour pour vos proches ? Et en plus, je précise que c'est bien une mini-série, c'est la nouvelle série de la créatrice d'End of the Fucking World, Charlie Covell, qui est une artiste que je vais définitivement suivre à partir de là, parce que effectivement, True Love, bah moi, il s'agit de mon top 1 de ce que j'ai pu voir cette semaine. Alors, si on prend en termes d'épisode pur, vraiment, quel épisode j'ai préféré regarder, bah c'est ce fameux épisode 3 de Dates IRL. Mais la série que j'ai préféré regarder dans son ensemble, en tout cas pour les peu d'épisodes qu'on avait, parce que bah à chaque fois, on n'avait que les débuts de saison, bah il s'agit clairement de True Love pour son écriture ultra carrée. Toi, Benjamin, je sais que t'as aimé aussi.
Ah oui, oui, j'ai vraiment apprécié. Bah en fait, l'élément qui crée la différence, je trouve, et bah en fait, c'est là qu'on se dit que c'est peut-être pas pour rien que c'est celle qui a fait The End of the Fucking World, qui était avec des jeunes, c'est que là, on est avec des vieux, mais en fait, elle arrive à toucher un sujet universel qui permet de se poser la question toute simple que tu nous as posée, qui est-ce qu'on ferait ça, nous, pour nos proches, tout simplement ? Est-ce qu'on les aiderait à partir si c'était leur souhait ? Et juste cette interrogation-là marche vraiment bien, sert à créer l'émotion, le rire, la passion.
Les larmes aussi, j'ai pleuré.
Ouais, ouais, voilà. Et ouais, bah en fait, c'est juste ultra prenant, d'autant plus qu'on a des personnages hyper intéressants, on sent qu'ils ont un passé chacun assez particulier, qu'on n'a pas encore découvert nous, mais qu'on sent quand même arriver, quoi. Et du coup, il y a en fait, en plus de cette histoire hyper prenante, il y a plein d'éléments à côté qui nous permet vraiment d'être captivés par la série. Donc, c'est une série juste efficace, en fait, tout simplement.
Oui, puis en termes de casting, il y a des têtes connues, hein. On a Lindsay Duncan, qui avait joué dans Rome, et aussi Clark Peters, qui a pu jouer dans The Wire. Donc vous voyez, on a quand même un casting de haut vol, et moi effectivement, là où je l'ai préféré, c'est, Benjamin, tu disais l'émotion et tout, mais moi c'est vraiment les émotions. C'est-à-dire que c'est une série qui est efficace en tant que thriller, en tant que série de personnages, mais c'est vraiment une série où on va aller chercher l'émotion, on va t'émouvoir, où tu vas avoir peur, tu vas rire, tu vas pleurer, et tout ça, ça va se mélanger, ça va te mettre vraiment dans un mood, et te mettre complètement à fond dedans, et complètement derrière les personnages, et peu importe l'âge que t'as, tu vas être ultra empathique face à ce qui arrive à tous les personnages en plus. C'est ça qui est d'autant plus fort. Peu importe le personnage de la série, tu es empathique avec lui, parce qu'on écrit la série pour que tu sois empathique envers eux. Donc du coup, tes émotions font un grand 8 pendant cette série. Donc bah là, vous l'avez compris, moi je vous conseille plus que conseille même True Love, qui est ma petite pépite de cette semaine. J'espère, pareil, on n'a pas de diffuseur ni de date de diffusion en France. Mais bon, c'est une série de grandes chaînes britanniques. Je suis pas inquiet qu'elle sera rachetée par une grande chaîne française aussi. Je tendrais à parier qu'elle soit rachetée par une France 2 ou quelque chose comme ça. À voir. En tout cas, c'est un gros banger qu'on vous conseille vivement.
On passe maintenant à une série québécoise, Société Distincte, qui a 10 épisodes de 44 minutes. Et nous, on a pu en voir 2, encore une fois. Maxime, à toi l'honneur.
Eh bien, depuis que son frère a disparu étant petit, Marc est devenu ufologue, en espérant le retrouver. On reprend donc l'histoire une fois qu'il est adulte, et le retour de son ami d'enfance dans son village va clairement réveiller le passé.
Voilà, exactement. Donc, ufologue, si jamais vous ne l'avez pas, c'est chercheur d'extraterrestres, en tout cas un spécialiste dans les ovnis.
Exactement.
Donc, c'est la première apparition des petits bonhommes verts dans la compétition, et vous verrez, c'est pas la dernière. Mais voilà, nous, c'est des sujets où on est sensible la plupart du temps, quand même.
Mais moi,
voilà, c'est ça. Toi, tu es un fanatique, et moi, ça me laisse pas indifférent. Et là, bah, la série est plutôt efficace avec ça. Donc, on a une disparition qui, voilà, on ne sait pas à quoi elle est due. Nous-mêmes aussi, spectateurs, on ne sait pas si c'est par rapport à des ovnis ou un truc bien plus terre-à-terre. Mais bah, c'est tout ce que va raconter la série, justement. Et c'est ça qui est vraiment assez intéressant. C'est, bah, on va confronter, du coup, son ami d'enfance qui a l'air d'être devenu plutôt rationnel. Et du coup, celui qui a perdu son petit frère, qui, lui, est parti vraiment dans les théories ovniesques.
Exactement.
Si je peux dire ça.
Ouais, exactement. Et je pense que là, pour la plupart qui connaissent un peu les séries, bah là, vous êtes en train de vous dire, oui, c'est bien, un révolutionnaire, c'est le pitch d'X-Files. C'est-à-dire, bah, un frère ou une sœur, dans le cas d'X-Files, enlevé par les aliens, puis un duo cartésien ésotérique qui vont s'affronter sur des théories. Oui, c'est clairement le scénario d'X-Files, mais alors, c'est pas du tout traité de la même manière, et je trouve que c'est là où la série tire son épingle du jeu. C'est qu'elle est très moderne dans son traitement, donc c'est-à-dire que bah on a des épisodes qui vont se concentrer sur les personnages, on va avoir beaucoup de plans larges, donc vraiment visuellement et scénaristiquement ça ressemble à une série de maintenant, mais elle va clairement se ressourcer pour ses inspirations dans les années 2000. Donc notamment avec ce pitch à X-Files, mais notamment par le fait qu'elle va vraiment instiller ce côté série mystère qu'on peut avoir avec par exemple des séries comme V, bah, X-Files, ou même des séries un peu mystères, genre des Kyle XY, pour ceux qui s'en rappellent, où on va vraiment travailler un peu un mystère de cette manière-là, tout en étant une série moderne de personnages, comme on peut voir sur des chaînes comme AMC ou HBO, par exemple.
Oui, ça, c'est vrai qu'on a aussi ce travail du quotidien. On voit, du coup, les personnages quand ils sont jeunes, et ensuite quand ils sont un peu plus vieux. Et c'est vrai qu'on a vraiment ce travail-là. Au début, ils sont au camping, tranquilles. Ensuite, on voit la fille de famille, relation mère-fils, des choses comme ça. Et on y passe du temps, mine de rien.
Ouais, puis même là-dedans. Adulte, on passe du temps dans la maison. On voit les deux membres dans leur travail. Puis après, on va suivre une discussion dans un bar, ce qui va nous indiquer bah, ce qu'un des deux gars fait après le boulot.
Voilà, c'est ça, exactement. Donc en fait, ça nous permet de bien rentrer dans cet univers et il va pouvoir ensuite nous déployer tout son mystère. Mais ça, nous, on ne l'a pas encore vu qu'on a vu que deux épisodes, évidemment.
Ouais, complètement. Et puis bah, là, c'est vrai qu'il y a une grosse hype autour du Québec d'un point de vue bah, qualitatif et puis bah, aussi beaucoup de films québécois qui sortent. À l'heure où on enregistre ce podcast, on a Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. On a eu ce chef-d'œuvre qu'est Les Chambres Rouges en début d'année. Même d'une autre certaine manière, hein, Denis Villeneuve de Dune 2, bah, il est aussi québécois. On a eu Simple comme Sylvain qui a remporté bah, le César du meilleur film étranger qui est sorti l'année dernière. Donc là, il y a vraiment le Québec là, qui est en train de nous sortir ses meilleurs artistes et qui brillent en plus à l'international. Bah, nous, c'est tout pour nous plaire. Et bah, c'est un peu la série qui confirme cette nouvelle hégémonie de la fiction québécoise. Voilà. Et je vais aussi préciser, petite parenthèse, qu'il pleut. Désolé si vous l'entendez. Je pense que vous l'entendrez un peu en fond et tout. Vous ne demandez pas si votre casque déconne ou non.
Non, va bien, tout va bien.
Il pleut. Le studio dans lequel on enregistre, bah, c'est un Velux. On est en mars, il y a les giboulées. Donc, et bah, voilà, un peu de bruit d'ambiance derrière nous. On pensera
un peu d'ASMR.
C'est ça. Tu vois, à la limite, la prochaine fois, on rajoutera des bruits d'oiseaux, des bruits de fontaines, je sais
wow,
pas. Waouh,
magnifique. Vous allez kiffer.
Faire croire qu'on enregistre en pleine nature, tu sais.
Exactement, exactement. On est au milieu de la jungle actuellement. Une petite cascade à côté de nous.
Donc, encore une fois, voilà, on vous conseille. Ça s'appelle Société Distincte.
Nous pouvons donc passer maintenant à La Messias, qui est une série espagnole. Elle a 7 épisodes de 60 minutes. Je tiens à vous dire qu'elle a gagné quand même meilleure réalisation et aussi le prix des étudiants. Nous, on a pu voir le pilote et Maxime, dis-nous de quoi ça parle.
Alors, c'est l'histoire d'une mère et de ses enfants qui se retrouvent à vivre au pied du Montserrat, une région emplie de mystères au cœur de l'Espagne des années 80.
En effet, et c'est aussi bien plus que ça, parce que bon, ça va nous parler d'ovnis,
de mère célibataire, de ouais, secte, de ouais. séparation frère-sœur, de traumatisme d'enfance, d'agression.
Une multitude de choses. Bon, déjà, comme vous l'avez compris, cette famille a pas une vie très facile.
Ah hein. Oui, non.
On peut dire une petite vie de merde.
Une vie de merde.
Soyons...
La série, en fait, c'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'on suit plusieurs temporalités et plusieurs storylines, et en fait, à chaque fois qu'on se concentre sur une partie, tu te concentres sur la partie la plus pourrie des vies des personnages. Et c'est là que la série... en tout cas, un peu déçu, hein, c'est que c'est le bazar.
Ah oui,
c'est le bazar.
Bazar.
Mais c'était le bazar et narratif, et en plus de ça, le montage, lui aussi, il est bordélique.
Ah oui, oui, il n'aide pas du tout à comprendre où on est, ce qui se passe vraiment. Ouais, c'est clairement le problème qu'on a, nous, avec cette série, c'est que, comme tu l'as dit, c'est le bazar, et surtout, elle avait une intrigue intéressante, et c'est ça qui est dommage, c'est que l'intrigue qui concerne, du coup, la mère avec ses deux enfants était sympathique, en fait.
C'est le début de l'histoire, c'est la partie la plus ancienne de tout ce qu'on nous raconte.
Mm-hmm.
Donc, limite, on se dit, mais est-ce que la série, elle aurait pas gagné à être linéaire, pour éviter de nous embourber dans tout ça? En plus, c'est marrant parce que moi, généralement, j'aime bien les trucs bordéliques. Là, ça m'a vraiment dérangé, en fait, parce que, comme on vous a dit, il y a plusieurs temporalités, mais parmi ces plusieurs temporalités, il y a aussi plusieurs personnages. Ce qui fait qu'on va vraiment multiplier les différentes storylines, et il y a des fois, on comprend même pas qu'on passe à quelque chose d'autre. Et en plus, vu que dans toute cette histoire, il y a des histoires de sectes et des histoires d'OVNI, il y a des fois des éléments qui arrivent et on comprend pas ce qu'ils viennent foutre là. Et moi, je sais qu'au bout d'un moment, j'ai eu une réaction un peu viscérale pendant l'épisode. J'étais là, je me suis fait, mais arrête, quoi. Parce que je comprenais pas où on m'embarquait.
Ouais, non, mais complètement. Et puis, en plus, donc du coup, ça parle d'OVNI. On a carrément des apparitions, parfois.
Mmh.
C'est-à-dire que le mec est couché, derrière lui, il y a un extraterrestre. Le mec est au bar et celui qui lui sert la bière, c'est une main d'extraterrestre. Enfin, t'es là un peu en mode... Qu'est-ce qui se passe? Donc on comprend qu'il est un peu hanté par cette histoire, etc. Mais comme on va pas au bout de l'histoire qui se passe dans les années 80, pas au bout de ce qui se passe dans le temps présent, on comprend pas grand-chose, en fait, finalement. Et du coup, c'est un bordel qui n'est pas agréable à suivre.
Exactement. Et c'est vrai que dans les séries, souvent, on peut avoir cet effet de se dire « Bah attends, cette intrigue, elle sert à rien, je m'embête. » Mais à la fin de la saison... le puzzle est assemblé, et on se dit « Ah ouais, mais en fait, tout est logique. » Je pense par exemple à la saison 5 d'American Horror Story qui s'appelle Hotel, qui avait typiquement ce procédé. C'est-à-dire qu'on avait l'impression tout le long de la saison de suivre un joyeux bordel, et en fait, quand on revoit la saison avec tous les éléments, on se rend compte que la série, en fait, elle est très carrée, que tout est raconté dans un ordre bien précis pour nous faire comprendre bien les choses. Mais du coup, c'est le danger avec une série, c'est que tant que t'as pas vu la fin, en fait, t'as du mal à justifier ce que tu regardes en tant que spectateur, et du coup, tu t'embêtes et c'est pas agréable. Et je pense que c'est important pour une série de, quand elle est aussi bordélique et qu'elle te propose autant de choses différentes, de te donner confiance en elle pour te dire « Non, attends, t'inquiète, je sais où je t'emmène. » Et c'est dommage, encore une fois, parce que y a l'actrice principale qui joue la mère qui est incroyable. En plus, les enfants sont très attachants. Les personnages aussi sont super attachants. On a beaucoup d'empathie pour eux. Il y a aussi une photographie un peu dégueu qui fonctionne vachement bien. Il y a une ambiance que j'ai beaucoup aimée, assez mystique dans la série, qui fonctionne aussi très très bien.
Encore une fois, dans la partie des années 80, un peu moins quand même dans l'autre.
Voilà, mais du coup, le chaos qui règne nous empêche un peu de profiter réellement du spectacle. Après, on va nuancer, parce que comme on vous l'a dit, cette série a eu quand même deux prix, de deux jurys différents. Donc peut-être que pour le coup, c'est nous les vieux cons, et qu'on a juste pas été sensible à ce qu'on a pu regarder, quoi.
Et juste pour préciser aussi, on ne sait pas si, par exemple, les membres du jury ont vu l'intégralité de la série, ou s'ils ont vu, comme nous, un ou deux épisodes.
Exactement.
Donc ça, on n'a pas l'info aussi, ça se trouve, s'ils ont vu tous les épisodes, ça crée une différence.
Le fait d'avoir eu là accès qu'au pilote, du coup, on n'a peut-être pas pu comprendre la prouesse d'écriture que c'était. J'ai quand même envie de lui donner sa chance si elle sort, mais en tout cas, ça nous a pas touché là. Mais en vrai, vu qu'on est visiblement les seuls à pas l'avoir aimé, on vous la conseille quand même, parce qu'il y a plus de chances que vous l'aimiez, que vous soyez du coup pas d'accord avec nous. C'est une série espagnole, elle a pas de diffuseur. Après, Netflix généralement aime bien aller chercher des séries espagnoles suite au succès de Casa del Papel, donc peut-être que la série va être achetée par une plateforme, on l'espère. En tout cas, pareil, on vous préviendra quand ça sortira, et ça s'appelle donc La Messias.
Et la dernière série pour le panorama international s'appelle Show Yourself. On est encore sur une série espagnole de 8 épisodes de 30 minutes. Et nous, on a pu en voir 3. Maxime, dis-nous un peu ce que ça raconte.
Donc c'est l'histoire d'Anna, l'assistante de toujours d'un mystérieux artiste contemporain, qui décide de tout plaquer du jour au lendemain pour devenir elle-même une artiste reconnue pour son nom à elle.
Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu avec cette série, c'est les idées conceptuelles qui la parcourent, en fait. C'est pas forcément ce qu'elle raconte en elle-même, mais vraiment, il y a des idées comme ça qui pop et qui sont hyper intéressantes. La principale étant qu'on est dans une société où les gens disparaissent, littéralement.
Ouais, c'est une maladie apparemment courante qui... connu de tous,
voilà,
dans
ça.
Ce monde-là.
Mais au fur et à mesure, en fait, c'est-à-dire que, par exemple, notre personnage principal, elle disparaît en commençant par les doigts de pied. Voilà, là, c'est doigts de pied qui commencent à disparaître, et ce qui est un cas assez exceptionnel, parce que normalement, ça arrive aux personnes âgées, et là, bah, ça lui arrive à elle, et donc, c'est ça aussi qui va provoquer son besoin, entre guillemets, de changement de vie.
Exactement, parce que la maladie en question est une métaphore parfaitement assumée dans la série du fait de devenir invisible d'un point de vue de notre personnalité. C'est-à-dire qu'en fait, l'artiste pour lequel elle a travaillé toute sa vie, c'est un artiste qui cache son identité, et en fait, elle en est l'assistante. Mais elle en est plus que l'assistante, hein, c'est-à-dire que l'artiste, lui, reste derrière son téléphone à dire « je veux ci, je veux ça, je veux faire ci, je veux faire ça », et elle va mettre en place les ateliers, la fabrication de tout ça, les expos, le lien avec les musées et autres. Et en fait, du coup, sa personnalité est cachée par l'autre artiste. On suppose aussi que les vieilles personnes disparaissent, parce que c'est aussi un des problèmes de notre société, où au bout d'un moment, les personnes âgées, on les met dans un coin et on peut avoir tendance à les oublier. Mmh. Et donc du coup, c'est clairement une métaphore assumée de ça. Et la série, en plus, vu qu'elle se passe dans le monde de l'art contemporain, elle va se permettre tout un tas de petits à côté absurdes que ne renierait pas Quentin Dupieux. Et on vit du coup littéralement dans ce monde un peu absurde qu'elle va traverser. Elle va être pour le coup un peu perturbée parfois par ses absurdités, mais beaucoup de gens vont trouver ça normal.
Et voilà, donc comme tu disais, on a plein de trucs absurdes, et moi c'est surtout, elle va se mettre à travailler dans un bureau où en fait elle a le droit à une pièce où elle peut peindre, donc faire ses œuvres. Et son seul travail est qu'elle doit mettre les points sur les i des premières lignes de feuilles qui sont imprimées dans une entreprise.
C'est ça, elle est dans la salle d'imprimante, et l'imprimante en fait coupe les points des i. Du coup, elle doit, dès qu'une feuille est imprimée, vérifier et bien faire le point. Mais il faut qu'elle le fasse bien, quoi. Ces personnes sont très rigoureux et ça leur paraît complètement normal d'avoir ce poste.
Et
mais
voilà,
même questionne ça en disant « Mais vous pouvez pas changer d'imprimante, vous pouvez pas faire autrement. » Et lui dit « Non, non. »
C'est surtout « Vous pouvez pas le faire vous-même. » Et ils disent « Bah non, on n'est pas payé pour ça. »
Et puis on n'est pas artiste. Oui, et puis il dit « Oui, puis on n'est pas artiste. Nous, on a besoin d'une artiste pour vous faire des points bien ronds. » Et au bout d'un, elle va rater un point et elle va avoir un entretien recadrage pour lui dire « Bah écoute, là, ton point, il est raté. » Voilà. Et ça fonctionne très très bien, ce côté absurde.
Et voilà, c'est ce qui donne le cachet de la série, hein, finalement.
Ouais, et puis ça retranscrit bien cette confrontation à un monde qu'elle n'a pas vu évoluer parce qu'elle était enfermée dans son monde d'art contemporain, quoi.
Exactement.
Et je note aussi l'actrice principale qui s'appelle Macarena Sanz, qui porte la série sur ses épaules, parce que faut quand même une actrice qui a assez d'épaules pour pouvoir retranscrire ses émotions et ses réactions face à ce monde qui lui paraît complètement absurde. Et ça, elle y arrive complètement, et c'est vraiment grâce à son interprétation qu'on est embarqué dans cet univers. Donc voilà, ça s'appelle Show Yourself. C'est une série espagnole qui n'a pas encore de diffusion, on vous tient informé, et quand elle sortira, on vous conseille elle aussi vivement de la regarder.
On passe désormais à une autre compétition du festival, qui est la compétition comédie. Et cette compétition, elle a été remportée par la série Videoland, dont on va vous parler tout de suite parce qu'on l'a beaucoup appréciée. C'est une série de 6 épisodes de 8 minutes, donc c'est très rapide. On a pu en voir 4 épisodes, et Maxime, dis-nous de quoi ça parle.
Eh bien, c'est l'histoire de Hailey. Hailey, elle travaille dans un vidéoclub et elle va tomber amoureuse d'une cliente. Et avec la difficulté qu'elle a à avouer ses sentiments, l'enjeu c'est arrivera-t-elle à sortir avec l'élu de son cœur.
Voilà, donc quelque chose de très simple, mais qui est en vrai très attachant. Moi j'ai beaucoup apprécié la série, beaucoup aimé ses personnages et surtout parce qu'ils ont un côté cartoonesque. En fait, chaque personnage a ses traits un peu mis à l'extrême. C'est-à-dire que bah, déjà l'actrice principale, elle joue de son visage vraiment bien, genre dès qu'elle est triste, elle est vraiment très triste. Quand elle est grognon, bah, ça se voit aussi. Et c'est ça pour tous les personnages. Elle a une meilleure amie qui, pareil, est toujours très excessive, très excentrique. Et aussi, bah, le love interest qui est vraiment le cliché du love interest, quoi. Genre, toutes les cases sont au vert, vas-y, fonce, va la draguer, mais non, je suis quand même encore sur la retenue, hein, je sais pas trop, est-ce qu'elle a la même orientation sexuelle que moi, tout ça. Oui, 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 tu peux y aller, hein, t'inquiète pas.
C'est très clair, mais tout est fait sur justement ce personnage qui a du mal à simplement communiquer ses sentiments. Et ce côté cartoon, on le retrouve parce que bah, ça se passe dans un vidéoclub, donc on est vraiment dans une unité de lieu, comme on peut l'avoir avec un cartoon. Vu qu'ils ont les uniformes du vidéoclub, bah, l'actrice principale elle est toujours habillée pareil, et en plus on a un code couleur qui fonctionne très bien, c'est-à-dire que la série fonctionne avec trois couleurs. Le rose et le cyan, parce que bah, c'est les couleurs de l'uniforme et c'est les couleurs de la marque du vidéoclub, et le gris parce que l'ambiance est un peu grise. Et du coup, on a ces trois couleurs dominantes qui reviennent, et on va pas avoir de travail sur d'autres couleurs. Et du coup, ce travail photographique avec ce travail autour de la direction d'acteur rendent ce côté bah, très cartoon et très simple finalement, mais qui permet de parler de plein de choses avec beaucoup d'humour. Et puis c'est aussi, on va le dire, une série dans laquelle on a vraiment franchement rigolé, quoi. La série est vraiment drôle.
Ouais, ouais, la série est vraiment drôle et en fait, elle fait du bien parce que c'est rapide, donc 8 minutes par épisode. T'es pris tout de suite par l'histoire, y a pas d'enjeu hyper compliqué. C'est une nana qui veut essayer d'avouer ses sentiments à une autre, et c'est, comme tu l'as dit, très drôle en fait. Tout est efficace, bien fait, avec un vrai univers grâce au côté cartoonesque et à la colorimétrie. Donc en fait, on est sur une série qui remplit tout ce qu'elle a à remplir.
Ça s'appelle Vidéoland, ça se mange tout seul. On espère vraiment qu'elle va avoir une diffusion en France, parce que là, pour le coup, c'est une série australienne. Et on va dire que quel est l'avenir sur le marché de la série d'une shortcom australienne ? Franchement, j'en sais rien. Mais j'espère que, bah, limite, elle sera renouvelée pour une saison 2 et que ça lui permettra d'être diffusée vraiment à l'international et qu'on y aura accès en France.
On passe donc à la dernière série côté comédie, qui est Les Oubliettes. C'est une série de 6 épisodes de 12 minutes, et nous, on a pu en voir 3. Maxime, tu nous résumes un petit peu ça ?
Ouais, c'est très simple, c'est l'histoire d'Emma, qui trouve un emploi dans une taverne médiévale. Et elle semble être l'élue d'une prophétie. Et je précise aussi que ça se passe dans le monde moderne.
Donc, dit comme ça, ça donne très envie.
Ouais,
en vrai.
Nous, on avait très envie de la regarder. Elle, ouais, était, ouais, ouais. Elle était dans notre liste d'envie, et on s'est précipité dessus dès qu'elle était disponible.
Complètement, d'autant plus que c'est assez court, donc on se dit, bon, efficacité, on y va, ça y va. Le problème, c'est que c'est une série qui fait vraiment web-série, ce qui n'est pas un défaut en soi. Le problème, c'est qu'on sent un certain amateurisme, notamment dans l'écriture, et donc ça pose pas mal de soucis. Moi, j'aime bien quand y a ce petit côté amateur fait main, et on pourra en reparler un petit peu plus tard, mais ici, en fait, ce qui ne fonctionne pas, c'est l'écriture, où il y a un manque de travail, je pense, qui est assez évident, malheureusement, parce que bah, l'univers, comme on vous l'a dit, donnait vraiment envie.
Oui, puis ce problème d'écriture vient surtout d'un manque de finesse d'écriture, parce que la série va se risquer à enchaîner différents tons comiques. Donc de l'absurde, du comique de situation, du comique de personnage, de l'humour noir, de l'humour de référence. Enfin voilà, elle va vraiment multiplier les registres d'humour. Et c'est là qu'on voit qu'enchaîner les registres d'humour comme peuvent le faire, je sais pas moi, mais Les Nuls ou un film comme Scary Movie ou Hot Shot, bah c'est compliqué à faire. Parce que faut pas que ça ait l'air de blagues mis comme ça, random, parce qu'on a voulu les écrire et les mettre. Et le truc, c'est que dans Les Oubliettes, c'est l'effet que ça donne. Et du coup, il y a des fois des blagues que, en tout cas, moi, j'aurais dû trouver drôles, parce que c'est mon type d'humour, c'est le truc devant lesquels je rigole. Mais en fait, je comprenais tellement pas ce que ça venait faire là, que bah, du coup, je rigolais pas, ou alors je lâchais un petit sourire. Et au final, bah, le tout est pas assez homogène pour que ça fonctionne réellement. Et comme tu l'as dit, Benjamin, c'est une web-série. Et nous, le truc aussi, c'est qu'on l'a regardé dans un contexte bah, de festival de séries. Et du coup, bah, à côté de productions de la BBC, de grandes chaînes télé, bah, du coup, bah, ça faisait un peu amateur. Peut-être que, tu vois, si je l'avais découvert sur YouTube au détour de recommandations,
ouais, complètement.
J'aurais peut-être dit, ah, c'est trop marrant, en plus, t'as vu, ils y mettent du budget et tout. Mais là, ouais, c'est peut-être finalement le choix du diffuseur d'aller la mettre dans ce genre de festival qui lui a desservi. Parce qu'en plus, on s'est renseigné, c'est clairement une boîte de production web qui obtient un peu une diffusion télé de la série. Donc le distributeur, c'est bien une chaîne de télé, et le producteur, c'est bien une boîte web. Mais du coup, la rencontre des deux univers fonctionne bah, pas très bien, surtout dans le contexte dans lequel on l'a vu. Donc bah, limite, j'ai envie de dire, si la série atterrit sur YouTube à l'avenir, on vous la conseillerait.
Mais sachez ce que vous allez regarder en fait. Nous on ne savait pas.
Voilà.
Et donc du coup on a été surpris dans le mauvais sens du terme malheureusement. Si avec voilà tout ce qu'on vous en a dit, ça vous tente quand même, allez-y. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose qui va vous plaire.
D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire, mais les gars, qu'est-ce que vous dites ? Nous, on a adoré Les Oubliettes, c'est mon top 1, je sais pas.
ouais, n'hésitez pas à nous préciser, bien évidemment.
Voilà, donc encore une fois, hein, bah, pas de diffuseur France, hein, vu que bah, je pense aussi que ce festival, c'est aussi une occasion pour les séries de trouver des diffuseurs. Donc là, on vous parle à chaud, hein, la cérémonie de clôture était hier, à l'heure où on enregistre cet épisode. Donc bah, on vous préviendra quand même quand elle sortira. Peut-être pourquoi pas un petit TikTok, parce qu'on est aussi présent sur TikTok, donc peut-être un petit format court pour vous en parler plus en détail lors de sa sortie. Mais voilà, nous, c'est pas celle sur laquelle on est plus enthousiaste, mais si ce qu'on vous dit vous tente, allez-y.
Et on arrive à la dernière compétition du festival Sérimania, qui est le format court. Et on commence avec le gagnant de cette compétition, qui est Ceux qui rougissent, une série française qui a 8 épisodes de 10 minutes, et on a pu quand même en voir 5. Maxime, pitch s'il vous plaît.
C'est l'histoire d'un prof de théâtre remplaçant, dans l'option théâtre d'un lycée, qui arrive et bouge les codes établis pour que les élèves sortent de vraies émotions, et qui ne se contentent pas de jouer.
C'est un peu compliqué pour moi, et je vais vous expliquer pourquoi. Le premier épisode a commencé, et bon voilà, on avait la base, donc du coup, ce prof remplaçant qui arrive et qui a des nouvelles manières d'apprendre le théâtre, donc j'étais là, intrigué. Bon oui, c'est un peu étrange, mais bon, c'est normal, c'est un nouveau prof, les élèves s'habituent, tout ça. On va voir à l'épisode 2. Le problème, c'est que le schéma se répète, et se répète, et se répète. Ce qui fait que je n'ai l'impression de voir aucune évolution des personnages que je vois à l'écran, que ce soit les élèves ou le professeur, et il y a un côté assez antipathique, notamment au niveau du professeur, où je n'arrive pas à créer de lien avec lui, et j'arrive pas trop à en créer non plus avec les élèves. Il y a 2-3 passages qui peuvent réussir à plus ou moins atteindre quelque chose, un semblant d'émotion, mais vraiment, moi, je n'y arrivais pas, et ça m'a plutôt fait un effet inverse, où à chaque épisode, j'étais un peu plus à l'encontre de ce que je voyais, et en fait, je perdais l'intérêt au fur et à mesure des épisodes, alors qu'une série est censée faire tout le contraire.
Oui, puis surtout que c'est un format court. On a vu beaucoup de formats courts pendant le festival. Elle, en plus, elle est arrivée à la fin, en fin de semaine. Donc du coup, c'était d'autant plus dommage de ne pas la voir arriver à développer, à raconter réellement quelque chose sur l'ensemble de ces épisodes. Alors qu'on a bien vu que d'autres séries, on avait été capable en parfois moins de temps et moins de personnages.
Oui, d'autant plus que en fait, l'histoire qu'on nous propose est clairement faite pour le développement de personnages. On a un dispositif très simple qui est des élèves et un professeur. Il est censé leur apprendre quelque chose, donc leur apprendre à évoluer, et je vois pas cette évolution. Et sur un format aussi court, bah vous doutez bien qu'il n'y a pas grand-chose à côté, à part ça.
Oui, parce que en fait, les épisodes, ils se concentrent plus sur quelle méthode le professeur va utiliser dans cet épisode pour faire ressortir quelle émotion. Et du coup, on se concentre vraiment, c'est ça, sur la méthode pédagogique de théâtre pour ressortir des vraies émotions. Mais au final, bah avec autant d'élèves qui ont l'air si attachants, bah c'est pas ce qui nous intéresse. Moi je t'avoue que je suis un peu plus nuancé que toi, parce que bah pour avoir travaillé avec des ados et pour avoir déjà fait du théâtre, moi j'ai retrouvé des trucs que j'avais déjà pu vivre. Mais je sais pas si c'est vraiment finalement juste mon vécu et le fait qu'il ait retranscrit ça, qui fait que bah oui ça m'a attaché, plus que vraiment le talent à le faire. Et après là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que si les élèves sont très attachants, et que moi j'ai réussi à m'attacher à tous malgré tout. Mais je suis d'accord avec toi sur tout ce que t'as dit à part ça. Et je vais même rajouter aussi quelque chose qui m'a dérangé, mais là c'est vraiment technique, C'est-à-dire que la série prend le parti pris d'être un espèce de faux documentaire. C'est clairement assumé. Mais le problème de ça, c'est que, en fait, normalement, quand on fait un faux documentaire, on va employer un peu la technique de ce qu'on appelle la caméra épaule. C'est-à-dire vraiment de dire qu'il y a un cadreur qui est là, qui se balade et qui va filmer ce qui se passe. Le meilleur exemple de ça, c'est The Office avec Steve Carell, que normalement, vous connaissez tous, vous avez au moins tous vu un mème de cette série sur Internet. Elle prend vraiment ce parti pris d'être tout le temps la caméra épaule. Donc ça nécessite du coup un cadre un peu flottant et ça nous donne un peu du réalisme, tout ça. Là, le problème, c'est qu'on a la caméra qui est posée sur trépied. Ce qui fait qu'on a des plans très très fixes. D'ailleurs, des plans très très fixes, mais qui tremblotent légèrement au point que je me suis demandé s'il n'y avait pas un cadreur qui bougeait, bougeait la caméra sur trépied pour faire genre. Mais en fait, à ce qui me concerne, ça ne fonctionne pas du tout. Non. Et là où ça fonctionne encore moins bien, c'est qu'il y a des plans de coupe qui sont du coup minoritaires en caméra épaule, et que là, mais ça tremble de partout, on se croirait dans la mort dans la peau, avec ces scènes d'action, voilà, sauf que n'est pas Paul Greengrass qui veut.
La shaky cam.
Voilà, et faire de la shaky cam, c'est quelque chose qui est très utilisé, notamment dans le cinéma américain, parce que ça permet d'économiser du budget, et dans le documentaire, justement, ça permet d'ajouter du réalisme. Mais là, du coup, ça fonctionne pas, parce qu'on a soit une caméra trop fixe, soit une caméra qui est shaky cam, tremblement de terre 8 sur l'échelle de Richter, quoi. Donc, du coup, c'est en ça, pour moi, que ça fonctionne pas. Mmh. Et c'est là où, pour moi, vu que c'est une série sur des ados qui font du théâtre, elle aurait dû aller me choper pleinement, comme on en reparlera tout à l'heure, mais des séries comme ça qui me chopent, parce que c'est tout ce que j'aime. Là, elle m'a pas chopé plus que ça. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu dommage.
Pour préciser, quand on dit faux documentaire, c'est vraiment de manière spirituelle. Hein. C'est pas comme The Office, justement, où il y a des regards caméra, il y a conscience de la caméra, tout ça. Non, c'est vraiment de manière artistique. Hein. C'est une envie de se rapprocher au plus près de la réalité. Voilà, si vous voulez.
C'est vrai, mais merci de préciser, du coup. Mais encore une fois, comme toute cette série qu'on a un peu moins aimée de cette sélection et de ce qu'on a regardé, on vous en parle quand même parce que, visiblement, on est les seuls à pas l'avoir aimée. Elle a remporté un prix. Quand j'ai regardé cette série, déjà, je connais Benjamin, donc au bout de 3 minutes, j'ai compris que c'est un truc que Benjamin n'allait pas aimer du tout. Avant même de savoir ce que moi, j'allais en penser, j'avais capté que Benjamin n'allait pas aimer. Et que moi, j'ai aimé moyennement, mais du coup, je m'étais un peu douté qu'on allait être les vieux cons dans cette histoire. Donc, nous, on n'a pas trop aimé, mais visiblement, on est les seuls. Donc, écoutez, regardez-la. Vous avez plus de chances de l'aimer que de ne pas l'aimer. Nous, vous avez notre avis. Faites-vous le vôtre, comme le dit l'adage. Et on va passer à la série suivante.
Et pour la suite, on a Space Rat, qui est une série de 4 épisodes de 15 minutes. Nous, on a pu en voir 3, donc il nous manque juste un petit épisode, et c'est une série australienne. Maxime, comme d'habitude, le petit résumé, s'il te plaît.
C'est très simple. C'est des êtres mi-humains, mi-rats, l'animal, qui partent en mission spatiale à la découverte de planètes inconnues.
Et là, voilà, c'est l'appel à l'aventure, l'exploration de planètes, et je crois qu'on a un expert dans la salle, dans ce domaine, qui n'est pas resté indifférent face à cette série, bien évidemment.
Exactement, Benjamin, c'est-à-dire que Space Rat, c'est pas compliqué, elle fait que des trucs que j'aime. Et en fait, bien sûr qu'elle m'a chopé. C'est-à-dire que moi, j'adore les effets spéciaux un peu DIY, comme on peut voir par exemple chez Michel Gondry. Mm. On va assumer le carton-pâte, on va assumer le faux trucage. En plus de ça, c'est du Planet Opera. Donc Planet Opera, c'est un sous-genre de science-fiction qui consiste à explorer des planètes. Récemment, on a eu Dune, qui est un Planet Opera. On a Avatar, qui est aussi un Planet Opera. Donc là où, généralement, on entend parler du Space Opera, un peu plus par exemple comme Star Trek ou Star Wars, où là, on se concentre sur un vaisseau, sur l'espace, sur l'exploration spatiale. Là, on est vraiment concentré sur l'exploration de planètes.
Ouais.
Et moi, déjà, le Planet Opera, c'est mon sous-genre de SF que je préfère. Et comme je vous ai dit, j'adore les effets spéciaux DIY. Voilà, là, j'étais piqué. J'ai adoré.
Y a des créatures,
Ouais, en plus, c'est ça, c'est qu'on a du monstre, on a du biome. C'est-à-dire, on a une planète qui va avoir ses règles à elle. On va avoir des planètes qui vont avoir leurs propres créatures en cohérence avec la planète. Vraiment, tout ce qu'on attend d'un Planet Opera. J'enchaîne Benjamin parce que je vais vraiment avoir l'air d'un nerd si je continue de parler.
Non, non, mais t'inquiète pas. Mais moi, ce que je voulais dire aussi, c'est les décors naturels qu'ils ont choisis pour représenter les planètes sont hyper bien choisis parce que complètement différents. Donc, à chaque épisode, on est sur une nouvelle planète. Et ils sont très différents. On sent le décor naturel. Mmh. Et c'est beau. C'est très, très beau, quoi. C'est, franchement, c'est une réussite totale à ce niveau-là. Parce que c'est vraiment surprenant de voir un truc aussi beau. Et ça vient d'étonner avec le petit défaut qu'on a, qui est les passages sur la planète Terre. C'est que, bah, ça fait un peu moins rêver, quoi. C'est un petit peu moins beau. Et narrativement, on a du mal à voir qu'est-ce qu'elle fait là.
C'est ça. Bah, comme on vous disait, ça se trouve, bah, une fois qu'on aura vu le dernier épisode... On
tout
comprendra. Voilà. D'ailleurs, parenthèse, Sériemania, ne pas mettre toute la saison, je comprends, point de vue du diffuseur, et peut-être que vous avez sûrement pas eu le choix à ce niveau-là, mais là, quand il nous manque le dernier épisode d'une shortcom, enfin en tout cas d'une série courte, pardon, c'est pas une shortcom, mais en tout cas d'une série aussi courte dans ses épisodes, c'est ultra frustrant.
Fallait nous mettre que le pilote, les gars.
Ouais, c'est ça. En fait, quand il nous manque la moitié de la saison, ou quand il nous en manque 2-3, franchement, il n'y a pas de souci, c'est normal, c'est pour nous donner envie de regarder la série, pour nous la faire regarder quand elle sort, je comprends. Mais là, bah, je pense que vous avez peut-être été les premiers déçus à ne pas avoir réussi à négocier la saison complète avec le diffuseur. Mais voilà, on voulait vous transmettre que bah ouais, nous, ça nous a frustrés parce qu'on a trop adoré cette série. Mmh. Pour en revenir du coup à ces passages sur Terre, effectivement, bah, les épisodes sont très très courts. Et nous, du coup, on a envie de rêver, on a envie d'explorer de la planète, de l'espace. Et du coup, se concentrer sur des intrigues sur Terre avec le scientifique qui a créé ces hommes rats, bah ouais, du coup, on s'embête un peu. Et en plus, on sait pas trop où ça va et c'est pas non plus ce qu'il y a de plus drôle. Parce que ce qu'il y a aussi de très drôle, c'est ces personnages, c'est-à-dire qu'on suit un équipage de 4 personnes. Et en fait, ces 4 personnes, bah, comme une bonne vieille série de SF, ça référence vraiment au premier Star Trek. Hein. D'ailleurs, le premier mot de la série, c'est Space, comme commençaient les vieux épisodes de Star Trek avec cette catchphrase Space, Infinite Frontier. Voilà, c'est pareil, on commence avec ce mot-là. Donc on a vraiment voilà, le pilote, le scientifique, donc, voilà, chacun a son rôle bien défini et en plus va avoir sa planète pour exprimer sa compétence. Donc vraiment comme un bon vieux space opéra ou planète opéra à la Star Trek. Et donc du coup, c'est là où vraiment on va avoir l'humour. Et c'est là, en plus, ils sont hyper attachants pour le peu de temps d'écran qu'ils ont. Surtout le biologiste, le botaniste. Et la petite créature qu'ils rencontrent, la petite marionnette, c'est incroyable. Enfin bref, voilà. Je veux une saison 2, 3, 4. Je veux que ça dure. Je veux du Space Rats à fond.
Bon, déjà, on veut le dernier épisode.
Et je veux le dernier épisode, exactement. Donc voilà, c'est une série qui est australienne, qui est très courte. Franchement, je vois personne d'autre que Arte pour l'acheter, mais est-ce qu'elle va le faire? Je sais pas.
On espère en tout cas.
Exactement.
Et on arrive à la dernière série de ce petit florilège qui est hashtag Anna is Missing, ou Anna is Missing, qui est composé de 9 épisodes de 16 minutes. Nous, on a pu en voir 3 et c'est une série tchèque. Maxime, je te le demande une dernière fois.
Allez.
Est-ce que tu peux nous pitcher cette série ?
Avec grand plaisir, Benjamin. C'est l'histoire d'une influenceuse qui s'appelle Anna, qui disparaît mystérieusement. Et donc du coup, arrive le hashtag sur internet, Anna is missing. De son côté, Nina, une ado de 15 ans, découvre des photos d'elle, suggestives, dans le portable de son père. Elle le soupçonne alors d'être impliquée, et décide d'aller mener l'enquête.
Donc pour la deuxième fois, on a une série où papa, il est peut-être pas si gentil que ça. Et donc, pour Anna is Missing, ce qui est intéressant avec cette série, selon moi, c'est l'évolution des rebondissements qu'on a. C'est une série où, bah, du coup, comme on vous l'a dit, elle va découvrir des photos dans le téléphone de son père. Et à chaque fois, on va avoir des rebondissements très particuliers qui vont nous faire soit revenir en arrière en mode... « Ah non, c'est bon, je suis rassuré, ça va, c'est pas ça la situation. » Et un autre juste après qui va faire « Ouh, ça pue quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. »
C'est même plus grave.
Ouais, c'est peut-être encore plus grave que ce que je pensais. Donc en fait, la série, en tout cas sur les 3 premiers épisodes, s'amuse avec nous, comme ça en nous mettant des rebondissements qui ne sont pas que faits pour faire évoluer vers l'avant, mais parfois pour faire revenir en arrière. Et c'est ce qui la rend hyper pertinente, je trouve, dans sa façon de nous impliquer dans son récit.
Ouais, exactement, et du coup, c'est vrai que le récit est très prenant. Encore une fois, d'ailleurs, c'est une série qui est très moderne, parce qu'elle parle des réseaux sociaux, mais elle en parle en bien. D'ailleurs, ça fait pas série de boomers. Ah, vous vous rendez compte, c'est dangereux d'être une influenceuse ? Non, 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 ça en parle vraiment en bien, parce qu'on va suivre aussi des petits flashbacks sur la vie d'Anna. D'ailleurs, finalement, Anna et Nina sont les deux personnages principaux de la série. Et non, je ne parle pas de Tekken, pour ceux qui ont la ref. Et ouais, comme tu dis, en fait, c'est juste un bon thriller bien rodé. Et moi, j'ai adoré, et c'est surtout que, bah, on a encore une fois une actrice principale qui porte le truc sur ses épaules et qui est solide, quoi.
Allez, Maxime, je te lance au défi de dire son nom.
Alors, cette actrice s'appelle Alexandra Vostreyzova.
Oh, wow.
Je massacre sûrement son nom, mais on a demandé à Internet comment prononcer ça, parce que c'est un nom tchèque et qu'on voulait pas trop le massacrer. Mais on voulait quand même en parler, parce que ça paraît simple en apparence qu'elle a joué, c'est-à-dire une ado qui mène une enquête. Sauf que, vu les implications émotionnelles de son enquête, en disant « ça se trouve, mon père est impliqué d'une manière ou d'une autre là-dedans », faut les jouer, ces émotions-là. Mm. Faut les jouer, les surprises. Faut jouer le moment où elle se dit « ok, c'est bon, tout va bien. Ah non, en fait, c'est d'autant plus grave. » Parce que nous, on vit la série à travers son œil, et du coup, c'est ses émotions, sa justesse avec laquelle elle les joue, qui vont nous permettre de les ressentir. Et là-dessus, elle est incroyable, en fait, vraiment. Et je crois que c'est... On a beaucoup parlé d'ailleurs d'actrices pendant ce truc-là, parce que c'est vraiment un festival et une sélection qui a mis en avant un vrai travail d'actrice et une capacité à avoir un premier rôle d'une série qui porte la série et qui est la fenêtre émotionnelle d'un récit. Et là, avec Anna is Missing, d'une certaine manière, un peu l'apothéose de ça, et je suis content qu'on termine d'ailleurs par ça,
exactement.
Parce que elle englobe pas mal de qualités qu'on a vues dans les autres séries de la sélection.
Ouais, complètement. Et ce que je voulais dire aussi, c'est surtout que si vous aimez ce genre de série, c'est vraiment dans le top tiers de ce qui se fait dans ce genre-là.
Ouais.
C'est vraiment hyper impressionnant la maîtrise qu'il y a à jouer des rebondissements, même les scènes de suspense. Je pense par exemple à cette scène où elle va essayer de fouiller dans le téléphone de son père. Et il y a une vraie tension parce qu'elle doit réussir à déverrouiller le téléphone, mais il y a aussi l'empreinte digitale, tout ça et tout, et ça marche super bien. Ouais. T'es vraiment sous pression, est-ce que le père va s'en rendre compte? Oui, non. Et même les confrontations avec son père quand il parle, c'est hyper intéressant parce que l'acteur qui joue le père est aussi très doué.
Ouais,
donc, voilà, en fait, il y a plein de bons éléments dans cette série, et si vous aimez ce type de pitch... Vraiment, vous allez adorer à coup sûr.
Voilà, donc ça s'appelle Anna is Missing, enfin hashtag Anna is Missing, donc tout attaché. Comme on vous l'a dit, c'est une série tchèque avec des épisodes de 35 minutes. Alors, quel est l'avenir de ce genre de série sur le marché de la série? Écoutez, c'est triste à dire, mais pas grand-chose. À part que généralement, ces séries-là, elles sont rachetées en France ou dans des pays européens pour être adaptées dans leur langue avec des acteurs de chez nous. Donc, je dis n'importe quoi, si elle est rachetée par la France, il y a plus de chances qu'elle soit adaptée par TF1 avec Arnaud Ducret dans le rôle du père, plutôt que de simplement avoir une version adaptée avec des sous-titres et une VF.
Et on espère que ça n'arrivera pas, bien évidemment.
Ouais, c'est ça. J'espère vraiment, pour le coup, c'est une aubaine pour Arte, ce genre de série. Donc, j'espère qu'elle l'achètera. J'espère qu'on aura une adaptation française sous-titrée et doublée. Parce que vraiment, je sais pas où ça va. Mais je sais que la fin vaut le coup.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est contrairement, on vous parlait par exemple d'Apple Never Fall.
Tout peut se passer, ça peut être une cata comme très bien.
Voilà, que là, je sais que je sais pas ce qui m'attend et je sais que c'est banger parce que c'est juste trop bien maîtrisé et trop bien écrit à ce stade pour que ça capote. Et en plus, vu que c'est des épisodes de 35 minutes et que nous on a déjà vu la moitié de la saison, on sait que ça va pas tirer sur la longueur. Et en plus, on sait que le
mythe. On a vu que 3 épisodes sur 9.
Ah, sur 9, donc on a vu un tiers.
Il y a encore des choses à dire.
Mais tu vois, c'est ça, c'est que en plus, le mystère est assez épais pour me dire, le temps qui me reste pour voir le mystère, il est suffisant.
Oui,
complètement. Donc je sais que ça va être efficace, j'ai un bon pressentiment.
Pareil, puis juste envie de voir, quoi.
Voilà, donc si un diffuseur nous entend, achetez cette série, s'il vous plaît, et n'ayez pas peur de la vendre malgré le fait qu'elle soit tchèque, parce que franchement, c'est une pépite.
Ouais, exactement. Et c'est un petit doublage des familles et tout va bien.
C'est ça. Et en plus, pour moi, c'était une surprise. Parce que quand je l'ai commencé, je m'attendais à me dire, c'est moi, encore un thriller, super. Mm. Tu vois, elle avait pas le pitch le plus aguicheur par rapport à tout ce dont on a parlé.
C'était un pitch très simple.
C'est ça. Et finalement, elle se retrouve dans le haut du panier de ce qu'on a vu sur la grosse vingtaine de séries qu'on a vues. Puis bien évidemment, il y a des séries dont on ne vous a pas parlé, tout simplement parce qu'on n'a pas grand-chose à dire. En tout cas, donc l'année prochaine, Sériemania, c'est du 21 au 28 mars. Ils vont reproposer, pareil, sur Sériemania+, donc les épisodes comme ça. Mmh. On a hâte de voir la sélection l'année prochaine. On a surtout hâte de voir toutes ces fins de séries de toutes ces séries qu'on a commencées.
Oh oui.
Et on vous donne rendez-vous, là, pour le coup, je pense qu'on en reparlera en TikTok pour vous prévenir de leur sortie. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur TikTok.
Exactement, Maxime. Et c'est comme ça qu'on va terminer cet épisode spécial qui était dédié à Sériemania. On se retrouve, nous, très bientôt. Série Mania, on vous dit à l'année prochaine, on l'espère. Et tout ce qui nous reste à vous dire, c'est il n'y a pas de sous-culture.
Ciao.
Bye.
Si tu nous faisais plutôt un beau sourire en guise d'adieu.
Serre-moi fort, Johnny. C'est le dernier rayon de soleil.
Au revoir, Président.